Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le droit nous protège-t-il des logiques du pouvoir? Notre invité, François Saint-Pierre, est avocat pénaliste, auteur d'une pratique de défense pénale aux éditions LGDJ. Dans le droit contre les démons de la politique, il invite à la subordination du politique au juridique et non l'inverse, contre un état de droit à géométrie variable en somme. Le système actuel, rappelle-t-il, a été pensé, construit après-guerre pour garantir les libertés publiques et individuelles. Nous protégera-t-il en toutes circonstances, de la loi anti-casseur aux plaintes des gilets jaunes contre les violences policières? Assiste-t-on à un rétrécissement progressif de nos libertés? Le pouvoir judiciaire joue-t-il encore son rôle de contre-pouvoir? Bonjour Maître Saint-Pierre.
Bonjour.
L'état souverain n'a pas tous les droits, ça c'est ce que vous rappelez en ouverture de cet essai. Qui est garant de cela ?
C'est un livre que j'ai écrit en 2018 et qui, je trouve, prend de l'actualité presque chaque jour.
Que vous avez déjà terriblement envie de réactualiser.
Oui, oui, je me documente pour éventuellement un tome 2 d'ici un an, deux ans, trois ans, on verra. Mais je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité qui est toujours d'actualité. Le droit est-il apolitique? C'est la question que je lisais sur le fil Twitter de la Grande Table. Je ne crois pas. Le droit est en correspondance avec le politique. D'abord, la loi est votée par le politique, mais ensuite, elle est interprétée par les juges, les tribunaux, et en ce sens, le droit est un contre-pouvoir du politique. Il conditionne le politique. Mais en fait, c'est quelque chose qui est récent. On ne s'est peut-être pas rendu compte de cette évolution fantastique de notre système légal en France depuis des dates toutes fraîches, puisqu'il s'agit de 2010, 2011, 2013, c'est-à-dire ça fait moins de 10 ans. Et le fonctionnement de la machine judiciaire a fait que ces réformes qui peut-être étaient passées presque inaperçues en leur temps, eh bien, ont pris vie et ont une influence de plus en plus importante dans notre société et conditionnent le politique. Et quand je dis trois dates, c'est 2010, le Conseil constitutionnel dont vous vouliez à l'instant qu'il régisse la météo, mais ça, c'est
oui,
pas possible.
Je pensais le saisir.
S'est vu doté d'un pouvoir extraordinaire qu'on appelle les questions prioritaires de constitutionnalité. En un mot et très simplement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par des avocats au cours d'un procès pour défendre leurs clients, qui donc pose donc une question de constitutionnalité visant à demander au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme, non constitutionnelle, une loi votée par le Parlement. Je vais vous donner quelques chiffres qui donnent une idée de l'ampleur du pouvoir qu'a pris le Conseil constitutionnel sur le politique.
Et encore mieux que des chiffres, ou après les chiffres, oui, un exemple concret de saisine qui vous semble montrer le rôle et l'importance de ces questions.
Dans les années passées, le Conseil constitutionnel rendait à peu près une dizaine de décisions par an. Il n'était saisi que par les parlementaires ou le président de la République, très bien. Depuis, il peut donc être saisi à la demande d'avocats. Ça date de 2010. En 9 ans, il a rendu, j'ai vérifié ce matin sur le site du Conseil constitutionnel, 777 décisions. Et il a déclaré non constitutionnel près de 200 textes de loi. Je vais vous donner deux exemples qui vont éclairer l'influence du Conseil constitutionnel sur notre état de droit. Il a inauguré ce mécanisme des questions de constitutionnalité en 2010 en déclarant que la garde à vue en France, et on va en reparler peut-être des questions de garde à vue, était inconstitutionnel parce que les gens n'étaient pas assistés d'un avocat lors de leurs interrogatoires. Alors que c'était une tradition française, mais de très longue date, qui voulait que les avocats étaient exclus des services de police ou de gendarmerie.
Avec tous les problèmes que ça pose pour les droits de la défense.
Mais bien sûr. Deuxième exemple. Il y a peu de mois, le Conseil constitutionnel a jugé que le code pénal n'était pas constitutionnel en ce qu'il prévoyait un délit incriminant les personnes qui aidaient des migrants en situation irrégulière. Et il a dit qu'au nom du principe de fraternité, c'est la devise de la République, ce délit n'était pas constitutionnel. Autrement dit, les gens peuvent aider un migrant sans vérifier ses papiers. Qui, dans le monde politique, aurait eu l'idée de proposer ce projet de loi? Quel parti politique l'a fait? Aucun. Quel parti l'aurait voté? Aucun. Ce sont les juges du Conseil constitutionnel, pourtant eux-mêmes d'anciens politiques, qui ont eu cette idée-là. cette force-là à la demande, c'est vrai, d'avocats. Donc on voit bien là que ce système légal...
Donc à sa manière, le Conseil constitutionnel fait aussi le droit. Il ne fait pas que contrôler...
Mais bien
sûr. La bonne
sûr.
Application du droit.
Et c'est ce qui est très nouveau, c'est que le droit est désormais créé, plus que par le Parlement, par ces juridictions. Alors, on parlait à l'instant du Conseil constitutionnel, mais un mot sur la Cour de cassation, qui est notre Cour suprême, si vous voulez, qui en 2011, l'année d'après, et sans doute pour ne pas se faire distancer par le Conseil constitutionnel, a décidé que désormais, les juges avaient le pouvoir d'écarter l'application d'une loi votée par le Parlement s'ils considéraient qu'elle était contraire à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ou à une liberté fondamentale prévue par la Convention européenne des droits de l'homme. Autrement dit, les juges eux-mêmes, dans les tribunaux, ont le pouvoir de décider qu'une loi, eh bien, viole les libertés fondamentales et doit être écartée en invoquant une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est extrêmement important. Et ça donne un pouvoir aux juges très supérieur à celui qu'ils avaient antérieurement, où ils devaient se soumettre à la loi, l'appliquer mécaniquement. C'est une véritable révolution légale qui est presque passée inaperçue, sauf aux yeux de quelques-uns. Et notamment, dans le monde politique, de deux penseurs, dirais-je, de Les Républicains, Guillaume Larrivé et Éric Ciotti, qui ont parfaitement analysé ce système. Et d'ailleurs, dans cette salle même, il y a quelques mois, nous débattions avec Bertrand Mathieu, éminent constitutionnaliste, de ce sujet, et nous n'étions pas d'accord. Ils ont perçu ce problème puisqu'ils ont proposé en juillet dernier que la Constitution soit changée et que désormais, si une loi était annulée par le Conseil constitutionnel ou écartée par la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme, et si le Parlement la revotait dans les 6 mois à l'identique, à ce moment-là, il n'y aurait plus de discussion du tout. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de redonner au Parlement le pouvoir qu'il a perdu à l'occasion de ces réformes majeures récentes.
Donc, si je vous entends bien, François Saint-Pierre, pour l'instant... Tout va bien. On a 3 institutions, 3 juridictions suprêmes, la Cour de cassation, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel.
Plus la Cour européenne des droits de l'homme.
Dont on va parler, qui garantissent cette bonne subordination du politique au juridique. Le respect aussi des grands principes de droit. Il y a une limite infranchissable, et vous la rappelez, elle a été fixée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, c'est le respect des droits fondamentaux. Est-ce que le droit de manifester en fait partie?
Mais bien entendu, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit que protège la Cour européenne des droits de l'homme également, et c'est un droit qui est en débat aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, et j'hésite à employer le terme de répression policière, l'encadrement policier de ces manifestations.
Qui est en train de glisser dans la bouche de certains intellectuels, chercheurs, associatifs, manifestants, militants, de la répression policière à la répression judiciaire. Oui. Et c'est de cela dont je voulais vous parler, François Saint-Pierre. Il y a eu une mise en garde à ce sujet, même si c'est pas le terme qu'il a employé, en début de semaine dernière, du Conseil d'État et président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Delarue, voix importante de cette question, ancien défenseur en la matière, et il juge les libertés fondamentales aujourd'hui en très mauvais état. Il était l'invité samedi dernier des Matins du samedi de Caroline Brouet.
Il faut s'interroger sur les conditions, par exemple, dans lesquelles aujourd'hui le droit à manifestation s'exerce. Rappeler l'existence de la loi du 10 avril dernier, dite anti-casseur, qui est une loi qui limite, qu'on le veuille ou non, le droit de manifester. Et dans des termes, c'est ce que le procès que je fais souvent à ces lois récentes, dans des termes qui sont flous, qui sont vagues et qui laissent à l'autorité de police une marge d'appréciation considérable. Au fond, dans notre société, le pouvoir de police grignote assez régulièrement des pouvoirs qui étaient jusqu'alors dévolus au procureur de la République, au parquet, à l'autorité judiciaire. Moi, je suis inquiet des dérives de certains États en Europe qui touchent à des libertés dont je n'aurais pas pensé de toute mon existence jusqu'à présent qu'elles seraient menacées, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de manifestation. Et je constate que aujourd'hui en France, parce que nous sommes menacés par un ensemble de choses, le terrorisme, les black blocs, on prend des libertés, en effet, avec les libertés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu pendant toute la période, les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, un élargissement de nos libertés fondamentales. On est aujourd'hui plutôt dans le sens du rétrécissement. Et je préfère, moi, défendre les choses suffisamment en amont pour éviter qu'elles se dégradent. Et puis, ce qui m'inquiète aussi, c'est que, au fond, les libertés ne passionnent plus grand monde.
Bon, il y a quand même des gens qui s'y intéressent. Un collectif de chercheurs récemment a lancé un appel, nous accusons, demandant à ce que cesse cette violence d'État, comité collectif qui se retrouvera entre autres aujourd'hui à l'EHESS pour discuter autour de quelques temps forts de toutes ces questions. Il y a aussi des artistes qui ont lancé un appel commun. Nous ne sommes pas dupes sur la situation actuellement. Prendre des libertés avec nos libertés, est-ce que vous faites le même constat, vous, François Saint-Pierre, que Jean-Marie Delarue?
Mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, comme toujours, Jean-Marie Delarue, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, mais je le trouve pessimiste. Alors que j'ai écrit ce petit livre justement pour conjurer ce pessimisme. Alors moi j'exerce la profession d'avocat, je vois beaucoup les jeunes avocats, et notamment ceux qui vont défendre des manifestants qui se retrouvent en comparution immédiate devant les tribunaux. Et moi je peux vous dire qu'au barreau, il y a toute une génération d'avocats qui sont des passionnés de liberté et qui exercent leur métier avec énergie et détermination pour défendre ces libertés. Mais je crois aussi qu'ils ont dans les mains maintenant, ces avocats, des outils juridiques nouveaux qui leur permettent de faire fonctionner l'état de droit et de défendre de manière très effective ces libertés. On en parlait à l'instant, c'est cette question de constitutionnalité, l'invocation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces avocats ont des outils pour défendre leurs clients.
Mais tout ça, maître, ce sont des procédures qui sont longues. Or, un collectif d'avocats dans une tribune, là encore, en tout cas des avocats, des manifestants qui auraient porté plainte ou tenter de porter plainte excessivement victime de violences policières, rappelle que les procédures en ce moment marchent au ralenti, que les plaintes sont très difficiles à poser, que tout à coup, elles ont un coût particulier aussi pour ceux qui souhaiteraient s'en emparer. Il y a un peu le sentiment d'une justice à deux vitesses qui se joue en ce moment, d'une justice qui fonctionnerait quand même à un double temps, deux mesures, je ne sais pas comment il faut le formuler.
Alors, à double temps, en fait, c'est dans les deux sens. Ça parce va. Que la plupart des manifestants sont jugés en comparution immédiate dans la précipitation.
Et là, ça va très vite.
Oui, mais
là,
ça va très vite. Après que les plaintes déposées contre certains fonctionnaires de police soient traitées avec lenteur, oui, ils ont raison, bien sûr. Mais c'est toute la justice qui fonctionne comme cela aussi. Hein, c'est-à-dire dès que un juge d'instruction est nommé, la justice, tout d'un coup, se ralentit considérablement. Bon, il y a des procédures qui permettent aux avocats de faire avancer ces plaintes. Eh bien, ils le feront, bien entendu. Ça prend du temps, mais les avocats ont le temps. Il faut le faire. Et puis, je voudrais vous dire aussi, à propos du coup, que les avocats savent défendre des questions de principe, pro bono, comme on disait du temps des Romains, c'est-à-dire pour l'intérêt général. Et je ne pense pas qu'un seul avocat, je pense à Ari Halimi par exemple, qui fait très bien son travail, s'enrichisse beaucoup avec son travail. Hein, pas du tout. Donc ce sont des actions qu'il faut mener pour le bien commun, parce que c'est une nécessité, parce que la justice aujourd'hui est la seule capable à exercer un contre-pouvoir contre les abus du pouvoir politique.
Il est là policier. L'intérêt général, pour reprendre le oui. terme que vous avez employé, celui d'une justice qui fonctionne bien et de manière équitable. Deux chiffres juste pour qu'on se repère. En mars dernier, sur Europe 1, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, annonçait 8500 personnes vues par la justice, 1800 jugements pour violence durant les manifestations des Gilets jaunes depuis le début du mouvement, dont 40% de peines de prison ferme. Et, disait-elle, il en restait autant à venir. Là, on est le 19 mars. La justice qui n'est pas laxiste, hein, précisait la garde des Sceaux. De l'autre côté, on a ces révélations du Canard enchaîné dans sa nouvelle édition d'hier. Aucune des 227 procédures ouvertes par l'IGPN, la police des polices, dans le cadre des manifestations, n'a pour l'instant abouti. Voilà.
Ça n'est pas nouveau, je me permets de vous le dire, tout en respectant mon propre secret professionnel, que j'ai en main trois procédures qui visent policiers et ou magistrats pour des abus de pouvoir caractérisés et notamment à l'encontre de journalistes pour violation de leur secret des sources et dans d'autres affaires beaucoup plus graves encore, qui durent depuis 8 ans. j'ai des obstacles. 3 fois de suite, j'ai eu gain de cause devant une chambre de l'instruction parce que les juges d'instruction ne voulaient pas avancer. Bien entendu, il y a un corporatisme, une défense de l'institution qui fait que c'est difficile. Mais les avocats, c'est leur travail. Ils doivent être tenaces et ne jamais lâcher. L'un des plus grands défauts de notre système judiciaire, c'est cette lenteur. Mais pour qui sait rester déterminé, on arrive au bout quand on le veut.
Alors, si vous allez sur le droit de l'information et la question du secret des sources, je vais vous amener sur une autre affaire dont on a parlé dans l'actualité récemment, et ce cas peut-être le plus emblématique, celui de Gaspard Glanz, qui est un journaliste indépendant qui a été arrêté en marge d'une des manifestations des Gilets jaunes. C'était le 20 avril dernier. Il a été placé en garde à vue. On lui reprochait notamment un doigt d'honneur tendu dans un contexte lui aussi tendu en direction des forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue et il s'est vu interdire de couvrir les manifestations jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel de Paris revienne sur cette décision, en tout cas lève son contrôle judiciaire.
Je crois que le tribunal a repris raison et donc a levé mon contrôle judiciaire, constatant l'irrégularité de la procédure, donc a donné raison à tous les arguments de mes avocats et a levé mon contrôle judiciaire. Je peux donc refaire mon travail correctement et je serai présent à Paris le 1er mai en ayant le droit de le faire.
C'est une victoire pour la liberté de la presse, mais c'est une victoire de manière assez générale pour les personnes qui se font interpeller dans le cadre des mouvements des Gilets jaunes, puisque comme on l'a soutenu à l'audience, il y a une tendance du parquet et du siège à suivre, et à suivre une politique pénale qui est préécrite et qui consiste à interdire de Paris tous les samedis toute personne qui se fait interpeller en manifestation sans motiver cette décision.
C'est une bonne chose pour la justice que ce contrôle judiciaire ait été levé, non ?
C'est un très bon exemple pour bien voir concrètement comment les choses fonctionnent. Voilà un journaliste, même s'il n'a pas sa carte de presse, il est journaliste, c'est absolument indiscutable, qui, on le voit sur les vidéos, fait un doigt d'honneur aux policiers. Ça ne se fait pas, je ne trouve pas que ce soit un bel emblème, une belle manière de s'exprimer, mais peu importe.
Non, mais il peut à la limite être jugé et condamné pour cela, mais alors là, pourquoi Exactement. Pas de comparution immédiate ? Donc pourquoi tout à coup repousser ça au mois d'octobre ?
Attendez.
Ah oui, j'attends.
D'abord, la première question qui se pose, c'est de savoir si son interpellation aussi vigoureuse par les policiers, il est plaqué au sol de cette façon-là, est légale ou pas. Je ne dis pas qu'un doigt d'honneur soit tué, je fais le geste en même temps, ça ne devrait pas se voir, mais ça n'est pas pour vous, soit une expression élégante, c'est un outrage, c'est très clair, mais est-ce que ça justifie une arrestation dans la violence de cette façon-là ? Première question. Deuxième question, il est donc placé en garde à vue et cette garde à vue va durer près de 2 journées. Est-ce que c'est une durée nécessaire, proportionnée à cette situation-là ? Donc ensuite, il y a une poursuite qui est engagée à son encontre, et cette poursuite, elle est uniquement pour outrage, selon le mode de la comparution immédiate. Mais à ce moment-là, la défense a le choix de refuser un procès tout de suite et d'obtenir un renvoi. Donc l'affaire sera jugée, je crois, en octobre. Bien. Et le tribunal, ou plus exactement un juge, qui est le juge des libertés de la détention, décide, et là c'est très très étonnant, de lui faire interdiction de séjour à Paris, d'exercer son métier de journaliste pour couvrir ces manifestations. Que le procureur demande cela, chacun sa fonction. C'est prévu par la loi, il peut le demander. Mais qu'un juge, qui est lui garant des libertés, et donc garant de la liberté de manifestation, de la liberté de la presse, décide d'interdire comme cela un journaliste, c'est sidérant. C'est inadmissible. Alors les juges sont irresponsables, d'accord, mais on a le droit de dire que c'est inadmissible. Donc les deux avocats de Gaspard Glanz, qui sont encore une fois deux jeunes avocats, qui font très bien leur boulot, décident d'exercer un recours. Et ils vont demander au tribunal de lever ce contrôle judiciaire. Le tribunal, il a 10 jours, pour se décider, ce qui est rapide. Et donc à l'audience, il le demande et le tribunal, bien entendu, fait droit à cela. Il y aura par conséquent une audience au mois d'octobre. Et moi, je fais confiance dans ces avocats pour exercer les droits de la défense. Ils savent le faire, ils l'ont déjà fait, ils le referont. Les questions que je posais se poseront en termes cette fois-ci de droit. Est-ce que son interpellation par la force dans la violence était légale ? Est-ce que sa garde à vue pendant 2 jours était légale ? C'est très intéressant, voyez-vous, de noter que jusqu'à très récemment, la Cour de cassation, donc notre plus haute juridiction, considérait qu'elle ne pouvait pas juger la légalité des gardes à vue, que c'était du ressort des officiers de police. Mais en 2017, c'est très récent, elle a considéré qu'il fallait nécessairement que ces gardes à vue soient justifiées par l'enquête. Alors, moi, je n'ai pas accès au dossier, je ne suis pas l'avocat de Gaspard Glanz, qui a ses deux très bons avocats, qui, eux, lisent le dossier. Ils l'ont. Et la question est de savoir si ces deux journées de garde à vue étaient utiles à l'enquête. Pardon, mais pour l'interroger sur un doigt d'honneur, je ne pense pas que ça prenne deux jours. Hein. Maintenant, peut-être y avait-il une enquête sur autre chose qui n'a pas abouti. Je n'en sais rien. Mais il faudra bien que la justice se prononce sur la légalité ou pas de ce procédé qui consiste à interpeller par la force un journaliste, à le mettre en garde à vue pendant deux jours et lui faire un procès.
En attendant, Maître Saint-Pierre, cette première décision du juge des libertés laisse quand même une trace dans l'opinion, donne le sentiment, un sentiment de collusion peut-être entre le juridique et le politique, ou en tout cas de subordination, non pas du politique au juridique, mais de la justice au pouvoir politique. Est-ce que vous, ça vous a fait douter, vous qui êtes ou qui semblez si convaincu dans votre ouvrage, Le droit contre les démons de la politique, que notre système fonctionne bien, que les garde-fous fonctionnent bien et que tout est là pour nous protéger?
Ce livre est un éloge du droit, pas des juges. Je mets les juges au pied du mur, les avocats aussi, pour qu'ils fassent fonctionner ce système judiciaire. Nous avons très clairement vu un juge dit des libertés de la détention, faillir. Nous avons très clairement vu un tribunal, sur recours des avocats, rétablir le droit. Donc c'est une dialectique permanente. Je ne dis pas que la justice est une basilique, un édifice qui ne bougerait pas, qui fonctionnerait parfaitement comme un moteur. C'est une institution judiciaire, humaine, qui dépend de la capacité des uns et des autres à le faire fonctionner. Et là encore, à chacun son métier. Les procureurs sont là pour engager des poursuites, on ne peut pas le leur reprocher. Donc le procureur de la République de Paris, qui se voit si contesté, il remplit sa mission selon les termes de la loi. Aux avocats de s'y opposer et de contester ces éventuels abus de pouvoir. Et c'est ensuite au juge de décider. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors, quelle indépendance pour la justice aujourd'hui? Dans quelle atmosphère, climat travaille-t-elle? Rend-elle des décisions? Les magistrats du siège sont indépendants. Il se pose toujours la question du parquet que vous venez d'évoquer, du procureur. En 2013, autre date importante pour vous, sous François Hollande, il y a eu une interdiction pour le garde des Sceaux de donner des ordres au procureur. Est-ce que pour autant le lien hiérarchique entre le parquet, donc les procureurs, et le pouvoir exécutif est rompu?
C'est quelque chose d'essentiel. En commençant notre entretien, je disais, il y a trois dates. 2010, les questions de constitutionnalité. 2011, la décision de la Cour de cassation de permettre aux juges d'écarter une loi contraire aux libertés fondamentales. Et 2013, cette loi soutenue par Christiane Taubira sous la présidence de François Hollande, qui a prévu que le ministre de la Justice avait désormais interdiction de donner des directives individuelles aux procureurs pour la conduite de leurs procédures, de leurs enquêtes. Mais qui a aussi dit que les procureurs désormais devaient agir de manière impartiale. Ce qui a fait douter certains, puisqu'il est l'accusateur, une partie au procès. Il faut ici entendre, il doit mener son action de manière neutre et objective. Et ça, c'est une véritable révolution culturelle pour le parquet, parce que nous étions très clairement dans une histoire, une tradition napoléonienne où le procureur est un préfet judiciaire. Il exécute les ordres du pouvoir. Je vous invite à lire les mémoires de Jean Foyer, qui a été un garde des Sceaux éminent du général de Gaulle. Ses mémoires s'appellent « Sur les chemins du droit avec le général », dans lequel il dit que Place Vendôme, dans son fauteuil de ministre, il passait des coups de fil au procureur pour mettre en garde à vue un tel, pour libérer un tel, bref. Et tout semblait normal à l'époque. Il n'y a pas si longtemps, c'est en 2003, Dominique Perbaigne, qui lui aussi a été un grand garde des Sceaux, on peut le dire, quelqu'un qui a façonné l'institution. Un jour, dans un procès, une jurée, on est en 2003, hein, donc il y a 15 ans de ça, 16 ans, arrive au deuxième jour du procès avec un voile. Hein, elle s'est voilée. Et donc, est-ce contraire à la laïcité? Que fait le procureur? Il téléphone au garde des Sceaux, enfin à la chancellerie, et c'est Dominique Perbaigne qui donne l'ordre lui-même de récuser cette jurée, dit-il, au nom de la laïcité, et il va parler dans les médias pour expliquer sa position. 10 ans après, nous avons cette loi qui lui en fait interdiction. Vous voyez le basculement. Je crois que lorsque cette loi a été votée, on n'a pas perçu toutes ses conséquences, qui sont considérables. Parce que ce sont donc les procureurs qui sont en charge maintenant de décider d'engager des poursuites, de décider de traduire en procès une personne sans pouvoir en référer au ministère. Et ils sont là, livrés à eux-mêmes. Ils assument, certains très très bien cette situation, d'autres moins. Et nous avons vu des cas où des poursuites, des enquêtes n'étaient pas engagées. Je prends l'exemple des militants identitaires qui, sur les cols des Alpes, bloquaient les migrants avec des anoraks bleu clair pour ressembler à des CRS. C'était de l'usurpation de fonction. Et le procureur local de Briançon ou de Gap, je ne sais pas, de Gap, je pense donc, n'engageait pas de poursuite. Donc la presse a dit, mais que se passe-t-il? Du coup, il a ouvert une enquête. Vous voyez, c'est étonnant. Parce que je pense aussi qu'il faut une coordination de l'action des procureurs en France. Sinon, on aura des inégalités qui posent problème. Et ça n'a pas été pensé en 2013. Et je crois que c'est un sujet qui est primordial, la coordination de l'action des procureurs. Mais il y a un autre sujet aussi essentiel, en un mot, c'est celui de la communication des procureurs dans la société. Avant, c'était le ministre. Je rappelais l'exemple de Dominique Perben. Mais puisque les ministres ne peuvent plus intervenir dans les affaires, qui doit informer la société, l'opinion publique, les médias, de l'évolution d'une enquête? Forcément le procureur. Et on l'a vu
au moment des attentats.
François Molins, remarquable procureur de Paris, développer cette pratique, nouvelle pratique des conférences de presse qu'avait déjà initié le procureur de Marseille à l'époque, Jacques Dallest, excellent procureur également. Et donc, il y a cette nécessité-là. Mais je me rends compte que moi qui me promène beaucoup, vois les uns et les autres, je vais à l'école de la magistrature également, tous les magistrats ne sont pas d'accord pour remplir cette fonction-là, parce que ça les expose énormément. Le problème, c'est que le statut juridique des procureurs n'a pas été mis à jour en 2013, et les voici occupés une fonction judiciaire et sociale majeure sans que leur statut corresponde vraiment. Donc il faudra, je pense, vraiment travailler cela.
En un mot, vous avez parlé de Dominique Perben, vous avez estimé aussi que la très critiquée garde des Sceaux à l'époque, Christiane Taubira, avait en tout cas pris une bonne décision. Je ne vous demanderai pas là si ça a été pour vous une grande garde des Sceaux
mais
après
si,
coup.
Mais si, je vous le dis quand même.
Et je voudrais savoir, pour que Nicole Belloubet le devienne aussi à l'avenir, une grande garde des Sceaux qui laisse une trace dans l'histoire de la justice française, quelle réforme devrait-elle porter pour vous aujourd'hui?
Je pense que il faudrait aujourd'hui que le gouvernement prenne l'initiative d'une grande loi constitutionnelle pour redessiner le statut de la magistrature, des juges du siège, des procureurs et des avocats aussi, qui sont les moteurs de la justice. Parce que s'il n'y a pas d'avocats pour poser les questions aux juges, les juges n'auront plus rien à juger. Il faut donc redéfinir cela. Pour ça, il faut une culture judiciaire, une culture historique, et il faut vraiment vouloir le faire, aimer la justice et pouvoir parler aux uns et aux autres. Je n'ai absolument aucune animosité contre Madame Belloubet, mais je note que le discours est rompu avec les avocats et c'est bien dommage.
La question aussi à se poser avec vous, François Saint-Pierre, c'est toujours qui juge les juges? Alors, vous nous rappelez dans cet ouvrage, le droit contre les démons de la politique, que ce sont les députés qui font la loi qui dit le droit. Donc, première question peut-être, pour freiner ou contrôler l'exercice parlementaire en cas de mauvaise loi, qui est là?
Pour freiner les mauvaises lois, les juges sont là pour les déférer au Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation, à la Cour européenne des droits de l'homme, les juges et les avocats. Mais qui juge les juges? C'est extrêmement important.
Alors, qui juge les lois? C'est le Conseil constitutionnel quand il est saisi en ce sens. On l'a vu d'ailleurs encore récemment pour la loi anti-casseurs.
Hein. Absolument.
On l'a vu aussi dans l'affaire dite Big Malion, où les sages diront vendredi prochain le 17, si Nicolas Sarkozy soupçonné d'avoir dépassé le plafond autorisé pendant sa campagne en 2012, peut-être jugé à nouveau pour les dérapages financiers. Mais qui contrôle donc le Conseil constitutionnel?
Bon, très clairement, vous posez la question de sa composition. Est-ce qu'il est encore acceptable, vu ses fonctions juridictionnelles éminentes, qu'il soit composé d'anciens présidents de la République, qui pour la plupart d'entre eux ne viennent pas, ou d'anciens premiers ministres? Moi qui suis allé à plusieurs reprises au Conseil constitutionnel dans le cadre de cette procédure, j'ai vu des politiques, d'anciens politiques, qui avaient parfaitement endossé l'habit de juge constitutionnel. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est de haute qualité, est là pour dire que ce Conseil constitutionnel remplit ses fonctions. Je ne serais absolument pas hostile à ce que l'on redéfinisse le statut de ces juges constitutionnels et qu'il s'agisse davantage de juristes et pourquoi pas d'avocats, mais pour l'heure, il fonctionne. En ce qui concerne les juges judiciaires, il existe un Conseil supérieur de la magistrature qui est habilité et qui peut être saisi par tout justiciable pour statuer sur leurs fautes lourdes, dirons-nous. Mais surtout, il existe tout un schéma de recours que l'on peut exercer, de première instance en appel, en cassation, etc., pour que la justice fonctionne.
J'aimerais qu'on prenne le temps de dire quand même un mot encore de la Cour européenne des droits de l'homme. À l'Assemblée nationale, Marine Le Pen avait alerté l'an passé sur le protocole numéro 16 qui renforçait la place de cette Cour, de la CEDH, dans notre système législatif. Écoutez.
Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre ce qui pousse les dirigeants français à donner des pans de notre souveraineté à des organismes supranationaux. Ont-ils peur du pouvoir? Ou plus grave, pensent-ils que la France, qui a inventé les droits de l'homme, a besoin d'une structure supranationale pour lui en rappeler le respect de fond et de forme? Car ce protocole dont vous demandez aujourd'hui l'autorisation pour le ratifier est une nouvelle atteinte à la souveraineté de la France. C'est incontestable. Une nouvelle atteinte à l'indépendance nationale et une preuve de défiance à l'égard de notre pays. En effet, ce protocole numéro 16 renforce la place de la CEDH dans notre ordre judiciaire, place déjà exorbitante, mais plus grave, il renforce la place de la CEDH dans le pouvoir législatif et réglementaire, car désormais presque toute action réalisée par le pouvoir sera in fine soumise au bon vouloir de ces juges étrangers. Mais attention, cette soumission n'est pas une fatalité. Comme il semblerait que vous envisagiez une réforme constitutionnelle, eh bien écoutez, permettez-moi de vous faire une suggestion, inscrire dans notre Constitution que la Constitution est la norme suprême de l'ordre juridique français et que, de fait, aucune décision ne pourrait aller à l'encontre de la Constitution. Voilà qui rétablirait le respect du principe fondateur de notre République, la souveraineté nationale appartient au peuple.
Voilà, alors parce qu'elle est controversée, la CEDH est-elle impartiale ou gage d'impartialité pour vous, François Saint-Pierre? Et autrement dit, si la France quittait un jour la CEDH, comme le souhaite Marine Le Pen, au nom de la souveraineté nationale, comment interpréteriez-vous un tel départ?
Marine Le Pen a soutenu cette proposition pendant la campagne présidentielle de 2017. Elle le refait maintenant. Jordan Bardella, qui conduit la liste européenne, le dit également avec énergie. Mais pendant la présidentielle, François Fillon a tenu le même discours également. Donc lors des prochaines présidentielles, ce sera un sujet central. En 2017, le Parti socialiste ou la France insoumise n'ont pas tenu de discours de défense de la CEDH. Il faudra qu'ils prennent position. Je pense que la Cour européenne des droits de l'homme remplit un rôle majeur, non seulement en France, mais en Europe, pour la défense et le développement des libertés. N'oublions jamais qu'elle a été créée en 1951 sur le modèle du tribunal de Nuremberg pour justement faire en sorte que le pouvoir politique n'abuse pas jusqu'à violer les droits fondamentaux des personnes. La CEDH, comme l'on dit, a un rôle majeur à jouer dans notre société et notamment dans les temps troublés qui nous attendent.
Mais le fait qu'on ait besoin d'elle, c'est un camouflet pour nos propres institutions?
Non, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut considérer que le droit est en correspondance avec le politique et que le politique ne domine pas verticalement la société.
Merci beaucoup à vous, François Saint-Pierre.
Merci.
Le droit
beaucoup.
Contre les démons de la politique, ouvrage, essai à réactualiser urgemment. Hein, vous avez déjà pris des notes et on y a un petit peu contribué dans cette émission, j'espère. Vient de paraître chez, apparu en janvier dernier chez Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide toujours très précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzer. Il y a la réalisation aujourd'hui. C'était Anna Olvek avec Théo Gomard. Très bel après-midi à tous sur France Culture.